coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto.
Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec ce sous-le.
Avec l'attaque anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau volet de la sortie du dimanche. C'est la reprise de la saison. Donc pour nous accompagner pour cette première émission on retrouve donc Greg.
Bonsoir à tous.
Baptiste ? Oui ou non ?
Salut, bonjour à tous. Excusez-moi, ouais. J'avais oublié
remettre le micro. Tout va bien. Un petit faux départ, mais c'est vite oublié. Et Charles.
Salut Max et bonsoir à tous.
Voilà, bonsoir à vous, chers auditeurs.
J'ai un doute sur le fait qu'on nous entende, qu'on soit diffusé en direct. Donc, si vous pouvez nous préciser sur le chat si on nous entend bien, j'ai un doute. Hein.
Oui, c'est comme d'habitude, hein, les débuts toujours un peu difficiles, mais a priori, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Pareil, vous nous confirmerez au niveau du son si vous nous recevez correctement. Voilà, alors, pour cette première émission, eh bien, puisque la saison a enfin démarré, on a un peu rongé notre frein ces dernières semaines jusqu'à arriver finalement pour le début et la reprise avec les courses traditionnelles hein, qu'on retrouve dans l'hémisphère sud avec le Tour Down Under et également la Tropical Amissa Mongo qui s'est lancée dans la foulée. Voilà, donc on va principalement parler de ces deux courses et à commencer par le Tour Down Under qui s'est déroulé dans des conditions un peu particulières en Australie. On a eu même des doutes au début sur le fait qu'elle pouvait se dérouler correctement, mais les incendies...
Ça marche pas.
Ça marche pas ? Pourtant non, là, j'ai un live... Si. Moi, j'ai sur mon live...
Live, mais c'est bon, ça marche.
Voilà, c'est sur un autre live, en fait. Voilà, effectivement.
Il y a un autre live qui s'est créé.
Comme d'habitude. Des petits soucis techniques.
Dans le groupe Eto.
Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est simplement qu'on avait un lien vers une vidéo YouTube qui ne s'est pas activée. Et en fait, avec le logiciel de montage, là, on s'en est créé un autre tout de suite. Absolument. Ce qui fait que finalement, les spectateurs ont réussi à nous retrouver quand même. Là, je vois effectivement Ben qui nous confirme que ça marche bel et bien. Voilà. Une course qui a failli ne pas se dérouler, mais finalement une météo plus favorable a permis de calmer les incendies en Australie et la course finalement a eu lieu. Une édition qui a des airs quand même, des goûts des années précédentes, mais peut-être encore un peu plus agréable à suivre. Peut-être que le parcours aussi, cette année un peu plus difficile, permettait aussi de décanter les choses. Donc je vais vous demander déjà votre avis général sur l'épreuve avant qu'on rentre un peu dans les détails. Charles, tu veux bien commencer ?
Ouais. Pour revenir sur le Tour de l'Under, c'est une course effectivement qui lance bien la saison et qui permet de voir un petit peu où chacun en est, notamment au niveau des sprinteurs. Moi, concernant le parcours, il y a quelque chose que j'ai bien aimé cette année, c'est le retour de la montée de Paracombe. Je trouve que ça donne un petit peu de piment à la course, qui souvent se résumait à un duel entre les bonifs d'un côté que pouvaient prendre des mecs comme Daryl Impé et Richie Porte sur Willunga. Donc cet ajout de la montée de Paracombe, moi, je la trouve assez intéressante et ça redonne un peu de piment pour moi autour de l'Under.
Oui. Greg ?
Un petit peu pareil. C'est sans surprise hein, qu'on voit Richie Porte. Alors, peut-être que l'étape d'aujourd'hui, il y en a quand même une de surprise. On a vu une étape assez mouvementée. Peut-être qu'on y reviendra et avec une victoire d'étape un peu surprise. Mais c'est vrai que comme on s'y attendait, on retrouve Richie Porte en vainqueur. Je pense que personne n'est surpris de le voir encore gagner sur ses terres, sur sa course.
Et surtout pas moi.
Et surtout pas son supporter numéro 1.
Numéro 1.
Oui, alors justement, avant de passer la parole à ce moment-là, en effet, Baptiste, je me permets peut-être de revenir rapidement sur le podium. Hein. On a donc Richie Porte vainqueur devant Diego Ulissi et un étonnant et revenant Simon Geschke. Voilà, je t'en prie, Baptiste.
Je crois que heureusement que cette course quand même est la première de la saison et puis qu'on n'en voit rien, qu'elle a lieu la nuit. Franchement, ce serait la même course des après-midi d'avril ou de mai, on la trouverait horriblement naze. Donc voilà, mais bon, il faut bien une première course pour démarrer l'année. Et puis à la limite, c'est pas plus mal que justement on n'en voit pas grand-chose parce que ça nous décourage pas tout de suite sur comment les courses se tiennent. On peut un peu même fantasmer sur ouh là là, cette année c'était quand même vachement mieux alors qu'on avait vu des résumés de 3 minutes sur YouTube. Et on peut aussi un peu fantasmer. Enfin, il y a un côté un peu on se contente de peu quoi, voilà, parce que on a faim, que c'est le début de l'année et que on a envie que la saison reprenne et que quelque part c'est pas plus mal que ce soit sur une course un peu moyenne qui nous donne pas trop de qui nous rassasie pas trop tout de suite. Mais bon, ça, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, Richie Porte gagne le Tour Down Under pour la bon, je crois que pour la deuxième fois, mais bon, il est tout le temps hyper fort au Down Under et ça ne dit strictement rien de ce qu'il fait de la suite de la saison, puisqu'il a fait des saisons très diverses par la suite depuis 5 ou depuis 6-8 ans. Donc
Ah bah ça tombe bien, là tu
voilà.
me tends la perche pour la question que je comptais vous poser là-dessus justement, c'était dans quelle mesure cette course permet d'augurer ou pas de la suite en fait de la saison. Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements, quand bien même légers alors bah déjà, puisqu'on parlait principalement de ça, on va surtout se concentrer d'abord dans un premier temps sur le classement général, hein, la forme des uns et des autres. C'est vrai, comme tu l'as dit, et comme je l'avais moi aussi d'ailleurs un peu dit en introduction, de toute façon, on retrouve un peu toujours les mêmes coureurs ces dernières années sur cette course. Hein. On pensait avoir un vrai duel Porte-Impé, et finalement, bon, il a tourné un peu court, mais bon, Impé est quand même dans le top 10. Diego Ulissi est un habitué également du top 10 de cette course. Rohan Dennis, on pourrait même citer qui d'autre encore, un Bennett, voire même un Devenin. Ce
Hilton.
sont, voilà, voilà, des, c'est des coureurs qu'on a l'habitude de voir quand même en général dans les premiers sur cette course. Alors, est-ce qu'on peut en tirer un quelconque enseignement selon toi, Charles?
Non, pas vraiment, parce que bah déjà, je trouve que le plateau est pas exceptionnel. Tu l'as dit, Max, le classement général est un peu bizarre. On retrouve des Simon Geschke, enfin des mecs qu'on n'a pas trop l'habitude normalement de retrouver dans un top 10 des World Tour. Et pour moi, la grosse difficulté aussi pour juger du niveau de l'épreuve, c'est que en fait, je pense qu'on s'aperçoit que c'est vraiment très dur de mobiliser en janvier. Et du coup, un mec comme Richie Porte qui connaît sa montée par cœur, et c'est vraiment des montées qui lui conviennent énormément parce que c'est des efforts de quelques minutes, il n'a pas d'adversaire à sa mesure en fait. Donc c'est vraiment dur pour moi de vraiment le juger de la qualité de sa performance, que de toute façon il a une marge tellement énorme sur Wiginga qu'on ne peut pas savoir s'il est vraiment en forme, un peu en forme ou pas vraiment au top, quoi. Donc, enfin, c'est très difficile, je pense, de tirer des enseignements, même en début de saison au niveau des sprinteurs. On sait que les trains changent. Hein. Caleb Ewan avait eu du mal à se mettre en route en janvier dernier, si je ne me trompe pas, et au final, il tire une saison absolument exceptionnelle où il a gagné à peu près partout où il s'est pointé, quoi. Donc, non, pas facile et même impossible de tirer des quelconques enseignements du mois de janvier pour moi, quoi.
Malgré une victoire qui te fait plaisir.
Malgré une victoire qui me fait vrai plaisir, parce que je suis assez fan de Richie Porte.
Très bien. Greg.
Non, évidemment, enfin, pas de gros enseignements, puisque voilà, la victoire de Richie Porte, on s'y attendait. Les coureurs, pour le général, qui venaient pour la première fois ou presque sur cette course, finalement, comme Bardet ou Simon Yates,
Mais.
eh bien, n'ont pas fait grand, enfin, n'ont pas fait grand-chose, surtout pour Romain Bardet. Bon, Yates fait top 5, je ne sais plus ce qu'il fait à la fin, mais il est présent, mais
Carling septième.
c'est un petit peu décevant.
Oui.
Donc, on voit que sur le général, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'enseignement. Par contre, sur les sprinters, je pense qu'il y a peut-être plus de choses à dire. Parce qu'il y avait aussi pas mal de jeunes, comme Dainese, Halvorsen, Philipsen, qui ont pu aussi se mettre en valeur, faire quelques top 10, voire beaucoup, enfin, mieux pour Philipsen. Et donc, il y a peut-être un petit peu plus d'enseignement ou de choses intéressantes sur les sprinters.
Oui, peut-être. Alors, juste pour préciser sur les deux coureurs sur lesquels tu es revenu, hein, donc Romain Bardet, ça s'est très vite mal engagé puisque sur l'étape de Stirling, il me semble, il a eu un problème mécanique qui lui ont fait perdre 2 minutes 30. Et puis, même ensuite, bon, on ne l'a pas vu particulièrement à son avantage. Hein, durant l'étape remportée par Nizzolo, où à un moment, il y a eu les Mitchelton ont un peu serré la vis. Donc on a retrouvé 10-12 coureurs devant, bah, il ne faisait pas partie de cela. Et puis bah, le lendemain, sur la montée de Willunga, bon, finalement, on n'a pas retrouvé Bardet aux avant-postes, loin de là. Je crois qu'il s'est fait en plus lâcher après Daryl Impey par Porte. Néanmoins, il a beaucoup plus mal terminé, il a perdu 48 secondes sur la montée. Voilà. Simon Yates, lui, c'est un peu différent. Puisqu'il s'est beaucoup accroché à Richie Porte, c'était un des derniers à lâcher vraiment, et ça l'a peut-être vraiment mis dans le rouge, ce qui fait qu'il a perdu beaucoup de temps sur la fin, finalement, en se faisant dépasser par le groupe Geschke ou Ulissi notamment. Mais malgré sa chute, finalement, Yates, lui, avait quand même montré de belles choses. Par contre, au niveau voilà, la force du collectif, finalement, bah, que ce soit Mitchelton ou même Ineos, hein, qui avait, je crois qu'ils ont trois coureurs dans les 15, ça leur a pas servi à grand-chose tout ça. Les coups tactiques n'ont pas fonctionné. À la fin, c'était quand même le plus fort qui termine devant.
Van Barle est pas mal quand même, hein.
Oui, on a vu
Surprenant,
Van Barle du niveau de son leader désigné sur la course, hein, de Rohan Dennis. Il termine dans la même seconde. Je ne sais pas si vous voulez préciser encore autre chose, Greg, avant que je passe la parole à Baptiste.
non, c'est très bien.
Très, très bien. Oui, donc, Baptiste, ton avis là-dessus?
Bah, je vais faire une réponse un peu de Normand, n'en déplaise à Charles, mais pour les mecs qui sont en forme, qui sont montrés en forme sur ce Down Under, c'est bien. Pour les autres, c'est pas grave. Parce que on est en janvier, on parlait de Yates, vous parliez de Yates et de Bardet. Yates et Bardet, leur premier objectif de la saison, c'est le Giro, qui arrive en mai. Donc ils sont pas dans une phase où ils auraient un premier bloc avant une coupure, puis un gros objectif. Ils sont déjà dans leur premier bloc avec un gros objectif. Enfin, je veux dire, le Giro arrive trop tôt pour se permettre de construire un calendrier comme ça. Donc heureusement, entre guillemets, pour eux, ils sont déjà pleines balles. Ils montent tranquillement en puissance. Ils sont venus en Australie pour tourner un peu les jambes, pour s'entraîner au soleil, pour profiter un peu, pour changer de, pour dans le cas de Bardet, pour changer un peu de son train-train habituel de début de saison. Voilà, s'il y avait une perf qui venait, Yates s'y a un peu essayé, tant mieux. Sinon, tant pis, quoi. Les mecs, ils sont pas là. Enfin, le seul coureur de l'histoire du cyclisme à avoir fait le Down Under, d'avoir fait le Down Under un objectif, c'est Porte, quoi. Et après lui, il n'y en aura plus non plus. Donc, je veux dire, c'est pas une course qui fait se déplacer les foules et qui fait qu'on fait un bloc d'entraînement de 2 mois pour la gagner, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs des mecs comme Gechtu ici, ou par le passé, des Impey, des Luis Sanchez qui n'avaient pas été loin de la gagne il y a 1 ou 2 ans. Voilà, on est sur des coureurs qui sont pas des leaders le reste de la saison et qui, du coup, enfin, pas des grands leaders qui visent les grands tours, on va dire, ou même les fortes courses d'une semaine par étape. Donc voilà, pas d'enseignement particulier pour qui que ce soit, à mon avis. Pour les sprinteurs, c'est un peu pareil. Greg disait que pour les sprinteurs, c'était différent. C'est vrai qu'il y a deux, trois enseignements. Mais pour les sprinteurs, c'est le début de saison aussi. Donc, pour prendre le cas un cas sur lequel forcément on est très attentif, celui d'Elia Viviani, dont le transfert de Koenig à Cofidis. Bah, interroge un peu tout le monde. On se demande, voilà, est-ce qu'il va pouvoir garder le même rendement qu'il avait chez des Koenig, et même ou même qu'il avait chez Sky avant, en passant chez Cofidis, qui était Continental Pro encore l'an dernier. Bah, là, pour l'instant, c'est pas très probant, mais il y a plein de circonstances atténuantes. Il est tombé, il faut qu'il s'habitue à sa nouvelle équipe, à son nouveau train. Donc voilà, bien sûr qu'il n'est pas dans le même cycle que les saisons précédentes, mais la saison vient à peine de démarrer, quoi. Donc, pas de conclusion hâtive.
Oui, bon, on l'a vu quand même, un beau plateau de sprinteurs qui était réuni ici, hein, puisque quand même, il n'y a qu'à voir déjà les vainqueurs avec Bennett, Ewan. Bon, Nizzolo, c'est pas un serial winner, mais c'est quand même quelqu'un qui était très régulier au plus haut niveau il y a encore 2-3 ans avant ses problèmes de santé récurrents. Voilà, donc on a vu effectivement c'est aussi intéressant de pouvoir également bien effectivement les nouveaux ou les petits jeunes, voir comment ils arrivent à s'adapter. Je crois que tu mentionnais Philipsen, Greg, juste avant. Voilà, donc effectivement, Philipsen a été très régulier tout au long de l'épreuve. On l'a vu souvent faire des top 5, même sur des étapes un peu difficiles. Voilà, on a eu aussi un Dainese qui commence très vite eh bien, à montrer le bout de son nez. Tout ça est
Je signale
bonne.
juste que
Oui.
Philipsen avait été déjà très bon en Down Under l'an dernier. Il avait même gagné une étape, certes, avec des classements
Ouais,
à
après un
3D1,
déclassement, hein. C'est
mais il
ça.
avait déjà fait 1, 5 et 6 de 3 étapes l'an dernier. Donc voilà, c'est pas un coup d'essai, quoi.
Oui,
Pardon.
tout à fait, effectivement. Bah c'est, oui, c'est des coureurs qui vont a priori rapidement faire leur trou. De toute façon, pour Philipsen, ça fait pas de doute. Dainese aurait fait une bonne entame. Est-ce qu'on peut, en guise de conclusion, peut-être revenir après sur faire un zoom peut-être sur les performances des Français en particulier? Bon, forcément derrière Bardet, vu que Bardet s'est un peu vautré et à cause de l'étape de Sterling principalement, on attendait peut-être plus grand-chose. Je ne sais pas si vous aviez, vous, des expectatives peut-être un peu autres, Charles?
Ouais, bah pour Romain Bardet, moi, c'est pas facile parce qu'il a perdu du temps. Moi, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé sur la première ou la deuxième étape, mais il a perdu 2 minutes 30 ou 3 minutes 30, je sais pas trop
2,30,
pourquoi.
c'est ça.
Dérailleur cassé.
Dérailleur cassé. Et
À
bah,
genre
du
4
coup,
bornes de l'arrivée.
ça a un peu flingué son classement général. Donc, est-ce qu'il a eu la même motivation après à s'arracher ou pas? Moi, je trouvais que sinon, dans ses perfs, il était plus ou moins à sa place pour un début de saison. Et les courses dont le profil lui conviennent pas forcément. Je pense pas que Willing Hill, ça soit une montée pour Romain Bardet, par exemple.
Déjà.
Hein.
Oui,
En
rien
termes de
d'inquiétant de toute
puissance,
façon.
enfin. Et puis Baptiste l'a très bien dit, hein, les mecs sont en reprise, ils sont là pour préparer le Giro. Donc l'idée c'était de se faire plaisir au soleil, je pense, sur une course avec un niveau quand même assez relevé, pour commencer gentiment sa saison. Et sinon les Français, bah, c'est un peu comme tous les ans, hein, c'est sous pas la grimace. On s'aperçoit que année après année, que c'est très très compliqué pour eux de briller. La Bruno Ramirail fait 4 de l'étape de Willunga, si je me trompe pas, mais c'était grâce à une échappée, donc ça compte pas vraiment. Sinon, on voit que ouais, même Marc Sarraut, hein, moi j'ai trouvé Marc Sarraut très décevant. L'année dernière, on a dit plusieurs fois qu'il était très bon sur les épreuves de Coupe de France et des classes 1. Et là, on s'aperçoit encore une fois que malheureusement, quand on passe à un niveau World Tour, il est quand même assez dominé, et même pas dans des places de 4 ou 5, plutôt entre 8 et 10, voire plus loin. Donc moi, je trouve que c'est un peu pas inquiétant, parce que c'est pas très grave, c'est pas Arnaud Démare, hein, c'est pas le même niveau. Mais du coup, dans la hiérarchie FDJ, dans ses prétentions, je pense qu'il ne pourra pas prétendre justement à aller plus haut que bah, l'Europe Tour. Je ne sais pas si les gars sont d'accord avec ça, mais ça me paraît quand même compliqué comme signe.
Pareil, c'est le Down Under. Pour moi, c'est un peu tôt
Ouais.
pour tirer déjà un trait là-dessus, quoi. Et bien sûr, c'est un peu une occasion ratée pour lui, mais on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il en est dans sa préparation. On sait pas. Enfin, moi, à titre personnel, en tout cas, je ne sais pas. Et je voilà, je. En plus, c'est une course par étape. Là, il reste deux classiques australiennes. Là, il y a jeudi et samedi. Il y a la Race Torquay, qui est une nouvelle course jeudi. Et puis, il y a la Cadel Evans, Great Ocean, machin truc, samedi, là, qui sont deux courses a priori qui termineront au sprint, auxquelles il est censé participer. Je serais plus attentif presque à ces résultats-là pour lui que que des étapes du Down Under, quoi.
Oui, alors après, à voir si par exemple quelqu'un comme Viviani sera remis déjà
Aussi, ouais.
des conséquences de sa chute ou pas. On a quand même vu ben, les Cofidis en tout cas plutôt à leur avantage, même si ça ne s'est pas traduit par des victoires d'étape. Hein. Tout le monde n'a pas eu la réussite exceptionnelle de la Lotto Soudal avec 3 victoires sur 6 étapes, mais on les a quand même vus présents presque sur tous les terrains, puisqu'il y avait même Nathan Haas plutôt bien classé, je crois, sur l'étape de Paracombes. Donc des signes quand même positifs envoyés en tout cas pour le début de saison.
Ouais, d'ailleurs, Cofidis, ça nous permet de faire une transition pas mal parce
Oui.
qu'ils se sont déjà imposés lors de la première étape de la Tropicale, si je ne me trompe pas. C'est Attilio Viviani qui avait levé les bras, et j'ai l'impression que ça va plutôt bien s'engager, moi, chez la Cofidis cette année, malgré le semi-échec. Parce que, bon, enfin, quand Viviani a chuté, c'est forcément plus compliqué. Nathan Haas avait été pas mal sur la première ascension difficile, enfin, la première journée difficile à Stirling. Donc, je vois bien une Cofidis quand même faire une belle
Félicitations.
saison en 2020.
Oui, bon, une dernière conclusion pour Greg ou Baptiste là-dessus, avant qu'on
Donc
passe
on passe
justement
à la course la plus importante, la vraie course
à...
là.
Voilà, toi tu veux...
Greg Trépine, parce qu'il y a eu deux victoires de Delco quand même cette semaine.
Je pense qu'effectivement, ce n'est pas étranger à cette impatience.
Pas du tout, je suis d'une neutralité exemplaire.
Donc, écoutez, là, justement, je vous mets pour les youtubeurs là... les différents vainqueurs sur les 7 étapes de la Tropicale. Alors on a commencé par une victoire de Viviani de la Cofidis, hein, du petit frère, et on a terminé ensuite par une victoire de Lorenzo Manzin, mais entre-temps on ne peut pas vraiment dire que les équipes françaises aient été particulièrement à l'avantage sur cette course, hein.
D'ailleurs, contrairement à l'an dernier, hein, parce que les équipes européennes avaient un peu toutes rosté l'an passé, et là on s'aperçoit que les Africains, enfin notamment les Érythréens, même s'ils n'ont pas gagné le classement général, puisque si je ne me trompe pas, c'est Jordan Levasseur de l'équipe Roubaix Métropole qui s'impose, et les Africains ont été plutôt pas mal, enfin les Africains hors équipe européenne, j'ai trouvé.
Est-ce que vous comptez Delco dans les équipes africaines ou françaises?
Équipe un
C'est pas
peu
très sympa, ça, franchement. Ouais.
cosmopolite pour Delco. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Français dans l'effectif.
Mais c'est
Pour la
vrai que
parenthèse.
pour une équipe française, c'est 2 fois l'Érythréen Grimei qui a remporté les étapes. Donc, statut, position un peu particulière pour l'équipe. Mais bon, c'est bien une équipe française, effectivement. Donc, je rappelle vite fait, pareil, là, le classement, enfin, du moins le podium, hein, tout ça s'est joué dans un mouchoir de poche à coups de
Le bonif, hein.
placement, de bonif. Et donc, c'est Jordan Levasseur qui l'emporte devant Nathanaël Tefation et Emmanuel Morin. Voilà, tout ça se tient en 4 secondes. Même Youssef Regigui, l'habitué, le vétéran presque algérien, lui, termine quatrième, mais à 6 secondes seulement. Donc voilà, les 10 premiers, de toute façon, se tiennent en moins de 30 secondes. Hein. On a eu, comme souvent, hein, c'est une épreuve qui n'est pas non plus particulièrement escarpée. Donc il faut être vigilant, surtout ne pas se faire avoir et se retrouver coincé dans un peloton alors qu'un groupe devant conséquent part. Mais c'est souvent voilà, ce genre d'édition que nous propose la Tropicale. Oui, donc Baptiste, ton impression, je sais pas, parce que c'est difficile de se faire un avis sur la course parce qu'on a très peu d'images à chaque fois en plus.
Franchement, j'ai pas un avis très. Je vais vite passer la parole à mes
Oui.
camarades parce que moi, j'ai pas un avis très intéressé sur cette course qui me. Franchement, je sais qu'il y a un peu une hype autour de ces courses-là et de celle-ci en particulier parce que c'est le début de saison aussi. Mais franchement, moi, elle m'a jamais trop emballé. Quand je vois le classement général, d'ailleurs, j'ai un peu quand même l'impression d'être face à la division 3 ou 4 du cyclisme, honnêtement, sans vouloir manquer de respect à cette course ou à ceux qui y participent. Mais voilà, on peut quand même pas dire que le plateau fasse rêver. Et que pour une pointe, c'est quand même très léger, quoi. Donc, d'ailleurs, je constate que c'est ce bon vieux Carlos Oyarzún qui fait 7e du général en regardant ton écran.
Ouais.
Je pensais même pas qu'il existait encore. Voilà, bon, j'ai vraiment, ça m'excite pas des masses. Et je constate année après année que les mecs qui marchent entre la tropicale ne marchent pas du tout une fois qu'ils repassent en Europe. Donc, bon, je pense pas que ça va changer cette année.
Oui, tu veux dire qu'en fait, encore moins d'enseignements à en tirer pour la suite de la
Ah
saison
ouais, là, vraiment
que...
pas, ouais.
Surtout que le plateau était plus faible, enfin le plateau européen était pour moi plus faible que l'an passé cette saison.
Oui, alors ça permet quand même effectivement après pour les suiveurs bah, de découvrir des noms, hein, des gens que c'est vrai qu'on ne voit pas forcément au premier plan ensuite, plus tard dans la saison, notamment lors de la reprise de la saison en Europe. Néanmoins, on peut quand même, et là je pense que ça va être, je vais passer la parole à notre cher Greg, encore une fois souligner bah, déjà la double victoire de Grumet et qui l'emporte alors qu'il n'a pas encore 20 ans.
Ben oui, enfin, c'était un peu. On en avait parlé dans l'émission sur Delco, hein, que vous pouvez écouter sur la chaîne YouTube, hein, sur les autres supports. C'était un peu, voilà, un des coureurs, une des curiosités, hein, quoi, qu'on allait suivre, car c'est vrai qu'il a peu de références. Enfin, c'est peut-être un des seuls qui a quelques références en Europe, très jeune, et qui avait des objectifs, qui a déjà gagné l'année dernière sur la Tropicale et sur le Tour du Rwanda. Donc, il avait, enfin, c'était vraiment un objectif pour lui. Et il se devait de confirmer finalement, donc avec ses 2 victoires. Et après, finalement, à part sur l'étape, la deuxième étape où s'est joué le général, finalement, il a toujours fait top 10. Donc, c'est vrai, ça sera une des satisfactions pour Delco. Ça sera un des coureurs à suivre pour le prochain Tour du Rwanda. Après, évidemment, pour la suite de son calendrier, de sa carrière, faut peut-être un peu tempérer l'enthousiasme, hein. Ça sera à suivre. Est-ce que Delco va l'aligner sur les courses asiatiques? Est-ce qu'il va faire quelques courses de Coupe de France? Bon, ben, ça sera ça, on verra bien pour le reste de la saison, mais c'est vrai que ça fait partie des objectifs et que Bon, il y a une petite hype autour de lui parce qu'un jour il a battu Remco Evenepoel sur un sprint en 2018. Donc voilà, c'était une des curiosités à suivre sur cette course. Et pour enfin, souligner aussi, c'est important pour Delco qui ne gagne pas non plus 50 courses dans la saison de commencer dès la première course par deux victoires.
Voilà. Bah après, honnêtement, j'ai plutôt un a priori assez favorable, moi, pour Guillemet, parce que contrairement à quelqu'un comme Harry Rouya, par exemple, qu'on avait vu aussi se mettre à son avantage sur cette course il y a quelques années, j'ai l'impression déjà qu'il a un registre un peu plus varié. Hein, il a une bonne pointe de vitesse, il passe bien les bosses, donc voilà, c'est quelqu'un qui pourrait s'exprimer sur pas mal de terrains. Et puis ben effectivement sa jeunesse, hein, faut pas oublier, c'était quand même le premier coureur né après 2000 à s'imposer sur une course pro. Voilà, il l'a fait avant Evenepoel, alors il l'a fait avant effectivement plein de jeunes comme ça dont on entendait parler. Donc après tout, pourquoi pas, pourquoi pas. Une dernière chose à rajouter là-dessus, Charles, ou...
Ouais, bah sur Binyam Girmay, c'est vrai qu'il y a Baptiste l'a très bien évoqué. Il y a une petite hype autour du cyclisme érythréen et autour de ce qui se fait un peu en Afrique. Et bah moi, je l'attends vraiment, je pense, sur des épreuves, pas forcément que de Coupe de France, mais sur des classes 1, type Boucle de la Mayenne, Circuit de la Sarthe, etc., où il y a quelques étapes un tout petit peu vallonnées avec quelques sprinteurs qui sont éliminés. Et je pense que c'est sur ces courses-là où on pourra vraiment juger de son niveau face à une concurrence. Un petit peu plus relevé, s'il arrive à gagner cette année sur une ou deux courses en France, là on pourra peut-être se dire qu'on tient l'un des futurs peut-être grands coureurs africains, ou peut-être le premier grand coureur africain, et ce serait une bonne chose pour moi. Et un dernier fait à souligner, c'est là, quand même la victoire de Jordan Levasseur. On est passé très vite dessus, mais l'an passé, l'équipe Roubaix Lille Métropole avait gagné les Boucles de la Mayenne grâce à Thibaut Ferras. Et là, cette année, il gagne une nouvelle classe 1, même si certes la concurrence n'était pas forcément là, mais je trouve que pour une équipe continentale, c'est quand même pas mal d'enquiller comme ça un succès sur une course par étape dès le début de saison.
Très bien. Alors, j'aurais pu aussi évoquer à ce niveau-là également, qui a dû faire du bien pour leur morale, la Vuelta a Táchira pour l'équipe Androni, qui a remporté, je crois, 5 étapes sur les 7 possibles. Mais malheureusement, ils ont eu aussi à déplorer la blessure de leur jeune coureur Alexander
Alexander Cepeda, ouais.
Cepeda. Voilà. Et bon, a priori, il s'en sort juste avec une fracture de la main, ça aurait pu être bien plus grave, d'après les témoignages. Voilà. Bien, bah écoutez, je pense qu'on a réussi à faire à peu près le tour de ce qu'on voulait dire, hein, dans le temps qui nous était imparti.
Un petit mot peut-être juste
Oui?
sur un tout petit mot pour dire qu'il y a le Tour de San Juan qui commence,
Ce
qui va
soir,
animer la
voilà.
semaine, voilà, et
Il
qui
faut des
commence ce
pronos,
soir.
là.
Et auquel il y a quand même, j'en parle juste, hein, parce que voilà, il y a quand même Alaphilippe qui démarre sa saison là-bas, il y a Peter Sagan aussi,
Ouais, il y a
De Gennaert,
Gaviria, il y a Evenepoel,
voilà,
enfin, il y aura du
Gaviria.
monde, hein.
Ouais, exactement.
Il n'y a pas moins de 27 équipes dans le peloton, ce qui va avoir.
Et Oscar Sevilla.
Et Oscar Sevilla.
C'est un
Oscar
mec de
Sevilla
43 ans.
qui... Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être le pari de fin d'émission. Quelle place pour Oscar Sevilla sur la Vuelta San Juan?
Allez. En général,
Moi, je dis
c'est.
podium, hein, je pense,
Moi,
encore
je
une
dis
fois.
au minimum top 10, hein, de toute façon. Après, il faut voir si le poids des années ne va pas commencer à se ressentir aussi pour le vieil espagnol. Ce sera une des curiosités, effectivement, sur cette course. Il devait pas y avoir aussi, je crois, le fils de José Rujano également, ou je me trompe, ou je confonds avec une autre course.
Je sais pas.
Mais
Il y a
il y a un
Dani Diaz
Rujano, mais
aussi.
je crois que c'est pas le fils, hein.
Mais je crois que c'est l'an dernier où ils avaient couru ensemble sur une épreuve UCI, il me
Je
semble.
crois que c'est je crois que c'est le père, hein. Je crois que c'est 30... José Rujano, 37 ans,
D'accord, qui sera encore là, lui aussi.
à confirmer, hein. Mais
Encore
en
assez
tout cas,
jeune
il y a
par
un
rapport à
José
Valverde et
Rujano.
Sevilla d'ailleurs.
Il manque plus que Mancebo, effectivement, pour avoir pour réunir toute la clique.
Sur la start list, il y a pas le code UCI avec la date de naissance, donc je ne sais pas. Je ne sais pas.
Bien, bon, à confirmer alors. Et donc, oui, il
À
y aura cette
confirmer.
course. Et puis, dans la semaine également, on aura le début du calendrier espagnol, hein, les premières courses qui
Ouais,
vont
ouais,
reprendre
là
aussi en
aussi,
Espagne.
on
Le
l'a dit,
challenge de
c'est un peu des
Majorque.
courses où on a du mal à suivre, parce que déjà les horaires sont pas forcément bonnes, mais à partir de cette semaine, on va voir Majorque, on va ensuite on va voir la Marseillaise, Bessèges, enfin, ça va vraiment se lancer en Europe là, à partir des jours à venir, et c'est plutôt pas mal.
Voilà. Donc, une transition en douceur, effectivement. Qui va nous permettre de retrouver peu à peu ben, l'ensemble du peloton professionnel. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser commentaires, pouces bleus sur la chaîne. Et donc, on essaye de se retrouver très très bientôt, bien a priori pour la prochaine sortie du dimanche, dimanche prochain. Et on fera le point sur les courses qui se seront déroulées d'ici là. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.
Salut tout le monde.
Salut.